là.
Là, 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 là.
Il y a eu un blessé, je crois.
Attends, attends.
Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi, en comparution immédiate sur France Inter.
En direct du studio 611, une émission réalisée sous le casque de sécurité par Clément Nouguier, assisté de June Loper avec Michel Bézikian à la technique aujourd'hui.
Au sommaire cette semaine, pansez les plaies et épancher les larmes. Alors que l'ONU et le Parlement européen dénoncent tous deux un usage excessif de la force à l'encontre des gilets jaunes, nous avons suivi une équipe de street medic, ces secouristes bénévoles qui prennent en charge les blessés dans les manifestations, et rencontré l'avocat Raphaël Kempf qui dénonce, lui, les violences policières et judiciaires.
Ah ! Attends, j'espère. Ça, c'est... Ouais, c'en est une, ça.
Grenade.
Oui, ouais, ouais. Ah, ça y est, ça pleut. Fais attention à toi.
Michel Bachelet, donc, qui est haut-commissaire en droits de l'homme de l'ONU, reconnaît qu'il y a un mouvement social qui porte en lui la question de l'inégalité, donc c'est déjà un constat qui est important, et elle demande une enquête sur l'usage excessif de la force.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux les bruits qui courent ?
Vous l'avez entendu aux infos, beaucoup de gens marchent ce samedi. Marche du siècle pour le climat, gilets jaunes qui fêtent la fin du grand débat national, mais aussi marche en hommage aux victimes des attentats islamophobes de Nouvelle-Zélande, victimes d'un terroriste radicalisé en France, avec ces théoriens du grand remplacement comme Abou Erik al-Zemouri et autre ayatollah al-Reno Kamous. Bref, que ce soit contre la haine, pour le climat, de la fin du monde à la fin de mois, voilà qu'en notre époque individualisée, nombre de citoyens réclament du collectif, du tous ensemble, du ça peut plus durer. Mais il y en a d'autres qui ne se contentent pas de belles incantations, des individus qui, chacun à leur manière, freinent des cas de fer contre l'air du temps et ses lacrymos. Comme le maire de Phalsbourg en Moselle et son arrêté municipal pour interdire l'usage de lanceurs de balles, comme David Dufresne et ses signalements récompensés par le prix du journalisme en disant à ses collègues « mais faites votre boulot ». Ou même ces officiers de police judiciaire qu'a fait parler Pascal Pascariello dans Mediapart, policiers dégoûtés par les instructions illégales et liberticides imposées par leur hiérarchie et les ordres de placer systématiquement en garde à vue des gilets jaunes arrêtés de manière préventive, c'est-à-dire des gens qui n'ont commis aucune infraction. Et c'est vrai que de nos jours, il devient de plus en plus difficile d'exercer ce droit, pourtant fondamental, de manifester, Antoine.
Et heureusement, certains s'en inquiètent et un collectif d'avocats de gilets jaunes a saisi l'ONU pour dénoncer l'atteinte à la liberté de manifester. L'ONU les a entendus et a réclamé une enquête sur l'usage excessif de la force en France.
Alors je vous parlais des individus qui décident de s'impliquer dans ce casse-tête et pendant que des abrutis vandalisent le Fouquet's et les vitrines pour la joie des caméras, d'autres sont encore une fois mobilisés. Là où pleuvent les coups, ce sont les secouristes de rue que tu as suivis dans la Meuse, Charlotte.
Ils sont de plus en plus nombreux dans les cortèges à mesure que le nombre de blessés augmente. Reconnaissables à leur chasuble blanc, les street medics apportent les premiers secours en cas de blessure grave et soulagent les yeux endoloris par les gaz lacrymogènes. Tous les samedis, Yann et son équipe sont présents dans les manifs en Lorraine et parfois à Paris. Nous les avons suivis lors de l'acte 14 à la manifestation de Bar-le-Duc dans la Meuse. Tirs de LBD, éclats de grenades de désencerclement, jets de pierre ou détresse respiratoire aiguë, ils prennent en charge les blessés plus ou moins graves qui émaillent désormais toutes les manifestations des gilets jaunes. Et alors que la semaine dernière, l'ONU demandait donc à la France une enquête approfondie sur les violences policières, les street medics, eux, continuent de recenser tous les blessés et de transmettre ces données à l'ONU.
Alors jusqu'à 17h sur France Inter, entre rond-point et point de suture, comme un bruit qui court avec les street medics, secouristes de rue.
Ils sont de plus en plus présents sur les manifestations de gilets jaunes.
On avance, on va fermer, on avance.
Des secouristes bénévoles, équipés de matériel médical d'urgence, qui suivent les cortèges pour apporter les premiers soins aux blessés.
On va les signaler qu'on a les blessés, viens, viens.
Le gouvernement français abuse-t-il de la force lors des manifestations des gilets jaunes?
L'ONU réclame à Paris, je cite, une enquête approfondie sur l'usage excessif de la force pendant ces mobilisations.
C'est ce qu'affirme la commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies, la chilienne Michelle Bachelet.
Vous savez, on fait pas du maintien de l'ordre avec des pâquerettes, j'ai envie de dire, hein.
Viens, viens, mets-toi là.
J'arrête de mourir, hein. Saloperie.
Il faut maintenant dire que lorsque on va le samedi dans des manifestations violentes, on est complice du pire. C'est tout.
Ça gueule.
Ah, c'est intenable.
C'est intenable.
Les bombes lacrymogènes utilisées par les forces de l'ordre peuvent provoquer des conjonctivites, des larmoiements, des effets irritants, des allergiques à la peau, des douleurs thoraciques et des toux, et dans certains cas, des spasmes, des nausées et des vomissements.
Qu'éventils ?
A noter que depuis le début des manifestations des Gilets jaunes, on a largement dépassé la centaine de blessés graves, dont une quinzaine de mutilations irréversibles.
L'état de droit fonctionne à plein, pour tout le monde.
Antoine Chao.
Parce que la France reste un des plus grands états de droit du monde, et ça je crois qu'il nous appartient aussi de le redire.
Hashtag comme un bruit.
Ouais, vous êtes où Loïc? Vous êtes prêts dès que vous sortez des bagnoles là, c'est bon? Ok, nickel.
Vous pouvez m'expliquer du coup ce que vous avez comme matériel?
Casque standard hein, pour protection de tout ce qui peut nous tomber sur la tête, etc. Après on essaye alors d'avoir des lunettes les plus occlusives possibles par rapport au gaz. Là en l'occurrence moi j'ai deux paires, parce que j'ai une paire de lunettes de piscine pour protéger vraiment du gaz. Et celles-ci qui sont par éclat, que je vais porter par-dessus pour protéger les yeux. Parce que la lunette de piscine n'arrêtera pas malheureusement un tir de LBD. Et ensuite masque respiratoire avec des filtres actifs au charbon pour faire face aux lacrymogènes en toute efficacité.
D'accord. Et dans le sac à dos, il y a...
Alors, dans le sac à dos, il y a tout le matos de secours. Alors, bon, ça, c'est mon sac. Étant infirmier, j'ai un peu plus de matos que les autres n'ont pas. Notamment, j'ai ce qu'il faut pour perfuser en cas d'urgence absolue, si besoin, en attendant une médicalisation par le SAMU. Là, j'ai des couvertures de survie et un garrot tourniquet.
C'est quoi, un garrot tourniquet?
Un garrot tourniquet, c'est d'application militaire à la base. C'est très rapide à mettre en place et c'est fait pour faire face notamment aux membres arrachés, etc. Et puis après, principalement, de quoi gérer tout ce qui va être blessure, plaie en tout genre. On a du sérum physiologique en rab et de quoi immobiliser. Là, j'ai une attelle et un collier cervical si vraiment on a un gros pépin, notamment les tirs de LBD à la tête ou potentiellement, selon la cinétique, on peut suspecter des problèmes au niveau cervical.
Okay.
Voilà, donc on est à peu près apte à faire face à, on va dire, globalement toutes les situations en espérant ne pas avoir à servir du matériel. Moi, c'est toujours pareil, il y a plein de matos. Mon seul souhait, c'est de pas m'en servir. Parce que si malheureusement on s'en sert, c'est que on sait que ça va pas bien, quoi.
Tirer
Éric Morvan
dans une manifestation avec un lanceur de balles de défense dans une foule extrêmement mouvante.
Directeur général de la police nationale.
Peut parfois occasionner des blessures.
Donc on est là à titre prévisionnel et on espère que ça restera à titre prévisionnel. Moi je m'appelle Yann. Et en fait, j'ai fait la majeure partie de ma carrière dans tout ce qui était urgence, service d'urgence. Et je me suis beaucoup intéressé et formé de mon côté à tout ce qui était médecine tactique, etc.
C'est quoi la médecine?
En fait, la médecine tactique, c'est les principes de soins d'urgence dans des environnements hostiles. C'était ni plus ni moins initié par l'armée. Hein. C'est on prend, on extrait et on soigne après. Quoi. C'est pas dans le secours, le grand principe. Le premier, c'est de neutraliser le danger. S'il n'est pas neutralisable, on extrait. Comme nous, on est dans un environnement où on ne peut pas contrôler le danger, on va extraire les éventuels blessés de la zone de danger, puis leur faire les soins après, si nécessaire. Donc on a ce qu'il faut. Là, on va faire jonction avec l'autre partie de l'équipe qui arrive par l'autre côté de la ville. Et on aura notamment ce qu'on appelle un portoir souple, donc qui permet de brancarder quelqu'un qu'on peut rouler en boule, qui tient accroché au sac, et hop, on le glisse un peu comme un drap sous la personne, et il y a des poignées sur le côté, ça nous permet d'évacuer avec un blessé qui pourrait ne pas marcher, par exemple.
Les conditions dans lesquelles sont utilisées ces armes de force intermédiaire,
Jacques Toubon,
pendant les manifestations, créent incontestablement un risque disproportionné,
défenseur des droits,
c'est le mot, pour les personnes qui manifestent, ou pour celles qui sont autour des personnes qui manifestent.
Un petit café avant la...
Ah oui, oui, obligé.
Le début.
Un petit café pour le début, histoire de m'étonner.
Toi, tu t'appelles comment?
Alors moi, c'est François. J'ai rejoint l'équipe début janvier, parce qu'en fait, pour expliquer, j'étais manifestant pacifiste avant. Et puis, une des manifs, j'ai été tiré par un tir de LBD sur la malléole. Donc, j'avais 15 jours d'arrêt. Du coup, c'est là que j'ai, à ce moment-là, quand j'ai été blessé, que j'ai rencontré les street medics. Et puis, en prenant contact avec eux, et étant donné que je suis pompier volontaire, ça m'a permis de rejoindre l'équipe. Et puis, au jour d'aujourd'hui, je porte les premiers soins pour les manifestations, pour être qu'ils soient soignés tout de suite sur place, quoi.
Allez, à toutes!
Il faut maintenant dire que lorsque
reste de l'équipe qui arrive,
on va le samedi dans des manifestations violentes,
oh, le bordel.
On est complice du pire. C'est tout.
On peut viser aussi. Pas contrôle.
Deux. Non, deux. On est rajouté à la troisième. Le troisième, c'était les jaunes.
Bonjour. Bonjour, Charlotte.
Salut, Yann.
Angèle.
Enchanté.
Toi, femme et Yann, alors ouais,
bah, c'est moi, c'est Yann. Pardon. C'est bon, voilà, je passe avec le matos. Allez, équipez-vous rapidos. Allez, en avant. Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Vous ouvrir tous vos sacs.
Bien sûr.
D'accord.
Vous
n'avez pas d'armes, vous n'avez pas de...
Police municipale qui contrôle tous les sacs.
Unité 55 de COD Police à l'intention de la police municipale qui a priori est en contrôle de l'association langovicienne Strict Medine, les médecins qui apportent leur aide. Ils sont autorisés à garder leur protection oculaire à leur faire savoir.
Merci, bonne journée.
Merci, au revoir.
Et voilà, après un troisième contrôle de police, toute l'équipe des Gilets Blancs est en route pour la manif.
Allez,
on accélère.
Ah,
c'est eux. N'allez pas trop vite, n'allez pas trop vite.
D'abord, on essaie de rattraper le corps.
C'est pour nous, le tribunal.
On arrive, on arrive, on arrive.
Ah, donc là, on est parti, je pense, pour, comme d'hab, 15 bornes de marche, quoi, sur la journée. Espérons que non.
Les gens ils vous applaudissent quand vous passez.
Souvent on entend souvent des petits noms, nos anges gardiens, nos anges blancs. Il y a toujours un peu cette effervescence quand ils nous voient quoi. Donc c'est assez impressionnant et puis c'est beau comme expérience parce que en fait on est personne quoi. Ça nous encourage, ça nous motive à continuer en fait.
On a retrouvé le cortège à la gare.
Et une autre équipe là-bas aussi avec un drapeau derrière le cortège.
Salut. Bon, BFM, hein. Si c'est BFM, ça va pas aller. Hein.
France Inter.
France Inter, bon, bah, ça va.
Pourquoi vous êtes là, vous, aujourd'hui?
Bah, je suis là pour exprimer ma colère et puis montrer ma véritable colère. De toute façon, j'ai dit à mon père qui a 82 ans, j'irai jusqu'au bout, même jusqu'à la mort s'il le faut, mourir l'arme à la main. Et ça, je suis prêt à le faire.
Oui. Ah oui, c'est...
Ah oui, non, mais ça, de toute façon, moi, c'est décidé depuis longtemps. Moi, je me bats, c'est pour mon fils, c'est pour mes futurs petits-enfants, qu'ils aient un avenir correct. Mon arrière-grand-père a fait 14, mon grand-père a fait 40, mon père a fait la guerre d'Algérie. On a toujours été une famille de combattants. Et moi, je prends le flambeau, mais différemment, une révolution, c'est tout.
Vous êtes pour la révolution?
Oui, parce qu'on fait la morale à tout le monde, mais quand on voit ce qui se passe dans ce pays... Avant, je travaillais à Soletal, c'est une entreprise du steel cord. Pour les pneus, on travaillait pour Michelin, Continental et Goodyear. Et on n'a pas hésité à faire fermer une entreprise de 350 personnes, qui est maintenant laissée à l'abandon. Et puis un village, une ville comme Tronville-en-Barrois qui est à l'abandon complètement, parce que les gens s'en vont. C'est un village qui est mort. De toute façon, depuis le 7 mai 2017, c'est ce que je me suis dit. Je suis rentré, quand Macron a été élu, je suis rentré chez mon père. Je lui ai dit, tu vois, à l'heure actuelle, je suis en lutte. Et j'irai jusqu'à la fin. J'ai été tabassé, j'ai été gazé, j'ai été interpellé. Et puis je suis prêt à repartir.
Et la manifestation se met en route. Je manifeste pour ne pas être complice du pire, le macronisme. Nation égale État égale matraque. Capitalisme tue tous les jours.
Voilà. J'allais voir où était le défibrillateur de la gare, c'est pas si besoin. Et pile en face de toi quand tu rentres. Okay. Voilà. Regarde les gars. Allez, bon bah ça part alors. Allez, on monte en tête de cortège là.
Drapeau français en tête.
La rage du peuple, je la vois tous les samedis.
On a plus un frein, plus de quoi remplir un caddie. Chaque fin de mois crève la dalle. Je te parle pas d'appétit. Il suffisait de quelques gilets jaunes pour que petit à petit on se bouge, on se mobilise. Que la France s'organise, qu'on soit tous dans les rues et puis que l'Elysée balise. Et quand tu te trouves là planté devant les flics et que tu les vois matraquer des gens, comment rester pacifique? Qu'est-ce qui se passe? C'est fou. Je sais pas si tu réalises. Ils tirent sur nous, mais aussi sur les médics et les journalistes. Ils attendent bien qu'on soit tous regroupés. Enfin, en bas âge et personne âgé, ils en profitent pour tout gazer.
Les gaz, ils sont vraiment irritants. Il y en a beaucoup qui sont pleins de saignements après.
Quand tu te trouves là planté devant les flics et que tu les vois matraquer des gens, comment rester pacifique? Et puis quand t'es en plein milieu de ta manif, tu vois les flics se ganter. Deux minutes après, tu vois passer des visages ensanglantés. Comment rester calme, pas leur sauter dessus quand ils sont 10 à tabasser une femme et qu'elle n'a pas d'issue?
Attends, attends, attends.
C'est la révolution, on devient tous détraqués. Macron est comme une allumette, il est à deux doigts de craquer. Gilets jaunes, quel est votre métier?
Bon temps, j'espère. Ça c'est... ouais, c'en est une, ça.
La même?
Oui, ah ouais.
Quoi?
Ça va, Denis? J'ai vu le coup partir, arriver sur toi, mais je sais pas qui c'est.
Tu veux pas t'asseoir?
Honnêtement, j'ai pas vu. C'est au-dessus, là, elle est là.
Le monsieur qui saigne à la tête, Yann qui le soigne.
Il y a une artériole qui
demande, demande
de suturer l'artériole.
Sors-moi une autre presse.
Il y a un commerçant qui a sorti une chaise.
Assieds-toi,
Denis. Denis qui fait un bandage.
Gendarmerie nationale, dispersez-vous. On va faire usage de la force.
Reste avec, je vais chercher un autre petit. Viens, il y a un blessé. Il y a un blessé, là.
Premier blessé, victime d'un tir collatéral des manifestants. Le mec là qui a été blessé à la tête, ça a été un jet de canette par un manifestant. Il y a des dommages collatéraux régulièrement en fait quoi.
Qu'est-ce qu'il avait là le monsieur?
Une c'est... plaie sur le dessus du crâne, mais en fait il y avait une petite artériole touchée. Et le seul problème c'est qu'il faut suturer parce que sinon t'as beau comprimer, ça s'arrête pas. Donc là il va être évacué par les sapeurs-pompiers jusqu'à l'hôpital le plus proche pour être pris en charge quoi. Pas de chance, là. Enfin fin de manif pour ce monsieur.
Les gilets jaunes ont repris la marche. Nous sommes la révolution. Rends l'ISF d'abord. Macron, ton monde, on n'en veut pas. Justice sociale et environnementale, ça c'est écrit au dos des gilets jaunes.
C'est pas des boutons, merde.
Qui ça eux?
Bah, les gens, ils ont envie d'aller, ils ont la rage, ils ont envie d'aller directement sur eux quoi.
Sur les policiers.
C'est ça.
Il faut remonter le boulevard de la Roche.
Voilà. C'est tout. C'est la venue, allez.
Bonjour.
Là c'est un peu bloqué, on sait plus où on va. Hein.
Voilà, c'est ça que je demande. Nous on n'est pas d'ici, on connaît pas les routes ici.
Vous êtes d'où vous?
Saint-Avold. Tout ça, il arrive à tous dans Saint-Avold. On va voir le Duc, Épinal, Metz. La semaine prochaine, on va à Paris aussi. Le 16. On y va tous à Paris à manifester et tout.
Vous avez fait toutes les manifestations depuis le 17?
Tous. On a fait toutes les villes. Nous, à Saint-Avold, tous les jours, on voit des gens qui vont fouiller les poubelles. Et Macron, qu'est-ce qu'il fait? C'est pour les riches. Il ne pense pas à les autres. Moi, j'ai 400 euros par mois et je me démerde. Et heureusement que j'ai mes enfants qui me donnent un coup de main et me va aider, sinon je n'y arriverai jamais.
Et là, les violences, ça ne vous fait pas peur? Parce que...
Non, ça ne nous fait pas peur. Nous, ça fait maintenant, ça fait déjà des années qu'on nous prend pour des cons déjà. Hein. Maintenant, on est dehors et on restera dehors le temps qu'il faudra.
Ce qui fait peur, c'est la violence du gouvernement surtout.
Voilà.
Oui, non, mais c'est ce que. Enfin, de la police quoi.
Le Macron, c'est un violent.
Le fait de ne pas pouvoir vivre, ça, c'est de la violence aussi. Hein.
Chaque mois, on est obligé de compter nos sous. On n'arrive plus tous les mois. C'est vraiment le ras-le-bol. Moi, je suis salarié. Je dois aller au Luxembourg chercher mon carburant parce que sinon j'arrive pas à m'en sortir. Vous voyez comment que le carburant est à la hausse, à un moment, stop, il y en a marre.
Le carburant est augmenté depuis le 17 novembre, ils se foutent de la gueule du monde. Si on mettait tous les hommes politiques des casseroles au cul, il n'y aurait plus personne à l'Assemblée nationale. Et le seul rempart qu'il y a contre tous les pouvoirs, c'est les gendarmes et les CRS. Autrement, ils protègent leurs privilèges, c'est tout, parce qu'ils ont peur du peuple. Moi, j'ai travaillé pendant 42 ans, j'ai fait un métier difficile.
J'étais soudeur, je soudais des pièces à 700, 800 degrés. Et à la fin, monsieur Macron m'a piqué sur ma retraite. Et il a eu le culot de dire merci. Il me pique des sous de ma retraite, je ne l'ai pas volé, j'ai jamais manqué, j'ai jamais été malade. C'est ça qui m'énerve. Et je serai dans la rue, même si je dois mourir. J'ai fait une crise cardiaque un mois avant d'être dans la rue, et je serai toujours dans la rue. Parce que le grand débat, c'est du grand pipeau. J'ai toujours été un citoyen correct, j'ai toujours respecté la police. Mais maintenant, la police, pour moi, tout ce qu'ils ont fait dans les manifestations, avec le LBD et tout ça, c'est une honte. Et les flics, ils ont été applaudis. Il y a eu les attentats de Cachère et tout ça. Mais maintenant, les gens, ils ne peuvent plus les voir, ils ne les aiment plus.
Et là, on ne parle pas d'anarchistes, on parle de gens...
Pas
de retraite
d'anarchistes.
Franchement, j'ai jamais rien cassé de ma vie. Et à chaque fois qu'il y a une manifestation qui se finit et qu'on a un groupe pour parler, ils nous bombardent la gueule pour dire « dégagez ». Et voilà.
Bon, bonne manif.
Faut que je retrouve mes collègues.
On se rejoint au bout du pont où les CRS reculent, ok? Allez, on y va, c'est parti.
Le reste de l'équipe, là, c'est parti de l'autre côté voir ce qui se passait. Et donc, ils vont arriver par. On va faire la jonction avec eux. On tente de passer de l'autre côté.
Beaucoup d'emmerdes.
Divisé en deux, peut-être.
C'est quoi là les infos?
Alors, les infos, c'est que le cortège s'est séparé en deux. Là-bas, on va dire côté du coup est de la ville, c'est le cortège pacifique. Et côté ouest, de l'autre côté, on a les gens Black Bloc, casseurs, manifestants qui vont chercher l'affrontement. Donc, techniquement, c'est là où nous, on risque d'être le plus utile. Parce que, on rappelle que nous, le mot d'ordre, c'est qu'on reste quand même à disposition de tous les blessés. À partir du moment où un mec est à terre, il est hors combat. Donc, on soigne sans distinction, quoi. Principe de neutralité. Donc, je pense qu'on va essayer de voir pour essayer de se rapprocher de là où ça risque de claquer, quoi.
Les gars, là,
vous allez bouger vers où?
La préf.
D'accord. Hein, c'est le but, de toute façon. C'est la route.
Okay. D'accord. Donc, vous vous occupez de rallier le reste du cortège pour y aller?
Ouais.
Ok, donc nous, on va vous suivre. Alors, ça marche.
C'est bon, tout le monde est là, quoi. Ah, ça arrive encore.
Attendez, tout le monde, n'y allait pas à 10, les gars, sérieux. Vu comme vous êtes sapés, on vous croise à 10 comme ça, vous êtes embarqués direct.
Ah bah oui, non, bah ouais,
faites gaffe à vous, quoi.
Ah, ça y est, le cortège est reparti. Il y a les gens qui commencent à mettre un peu tous leurs lunettes, là.
Ça va gazer, là, Yann.
Ils savent se faire enculer. Vous voyez le jeu.
Allez, ça
gaz.
Un grand nuage de gaz. Ah, c'est intenable. C'est intenable.
Ferme tes yeux. Ah. Contaminant, c'est ce que les forces de l'ordre utilisent pour un crémeau, en fait.
D'accord. Ah ouais, parce que là, on voit plus rien. Ça pique.
Ouais, on avance. Ah, c'est le côté.
Oh là là, il y a une dame là qui va pas très bien.
Les jurons, on a une dame juste à côté de l'église, là, ça serait bien de venir autour.
Elle a des prothèses
au niveau de la hanche.
Ah, au niveau de la hanche. Ok.
Hey, là-haut, t'as. Hey.
Ah, ça va?
T'as une chaise là, et là-haut, ça jette des pierres. Alors,
formez un périmètre ici, là.
Donne la main.
Quoi?
On va aller signaler qu'on a un blessé, viens.
Il y a quelqu'un qui a rejeté une grenade dans la rivière.
Dès qu'elle est stable, dès qu'on peut la bouger, on la ramène derrière.
Qu'est-ce qu'elle a, la dame, la Yann?
Ce qu'on appelle une détresse respiratoire aiguë, liée aux gaz lacrymogènes qui sont extrêmement agressifs. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça.
Quand on gaz des abeilles, ça tombe. Là, c'est la même chose.
Vas-y, on va juste bouger parce que regarde, c'est en train de se mettre en place derrière là. On va venir à l'angle derrière pour se mettre à l'abri. Ouais.
Se mettre en place, c'est les forces de l'ordre.
Les forces de l'ordre, avancent là.
Avec les infirmiers.
Il y a toutes les forces de l'ordre aussi.
Voilà, madame, ça va aller, ne vous inquiétez pas.
Sur la musique de Star Wars.
Tu vas où?
Le monde diplomatique.
On s'arrête.
On réfléchit.
Gaz lacrymogène, des larmes en or. Contrairement à d'autres marchés, l'industrie du maintien de l'ordre ne craint ni les troubles sociaux, ni les crises politiques, bien au contraire. Universellement considéré par les gouvernements comme le remède le plus fiable et le plus indolore à la contestation sociale, le gaz lacrymogène ne connaît ni frontières, ni concurrence. Quel dommage cause-t-il à ses victimes ? Quel problème pose-t-il en matière de santé publique ? Nul ne le sait car personne ne s'en soucie.
On voit plus rien. C'est plein de gaz. Ah. Toutes les forces de l'ordre qui bloquent le pont, fumigène, que les forces de l'ordre envoient. Une dame qui ferme ses volets, premier étage, et hop là. Oh putain,
ah, c'est ta gueule.
Attention au caillou.
C'est un gros caillou qui est tombé sur le bouclier d'un CRS. Oh là là, il y en a un qui sort son flashball. Paf. Wow, il y a des gros pavés. Des fumigènes jaunes.
Ah, faites gaffe, il va l'arrêter, quelqu'un.
François, mettez-vous derrière les arbres, là. Charlotte, ça va, toi?
Ouais, ça va, j'ai mangé un peu de gaz, mais ça va. Alors qu'en fait, il y a un pont, et puis d'un côté, il y a les forces de l'ordre, de l'autre côté, les manifestants. Je les ai vus sortir les flashballs, enfin les LBD.
Normalement, si nous, on les charge pas, ils sont pas censés tirer au LBD, quoi. Puis bah suffit qu'il vise quelqu'un et que ce mec, au moment où il tire, il bouge. Bah c'est le gars qui est derrière qui le prend, en fait. Le gros problème du LBD, il est là, quoi. C'est que certes, c'est 90 mètres seconde, le déplacement, mais en une seconde, si le mec qui vise, il a bougé, c'est le gars qui est derrière qui a rien demandé, qui s'y attend pas, qui se le prend, au mieux dans la jambe, au mieux, au pire, dans la tête, quoi.
Pourquoi vous avez tous du blanc partout, là?
C'est le malox, c'est à cause du malox. C'est les médics, quand ils nous soignent, du coup, ils nous mettent du malox dans les yeux, et c'est pour ça qu'on est tout blanc au niveau du visage.
Le malox, c'est pour que les gaz lacrymaux arrêtent de piquer,
voilà,
quoi.
C'est pour arrêter le gaz.
Vous êtes fait gazer?
Ouais, un peu aussi, ouais.
Un petit peu?
Ouais, ouais, ça pique un peu, ouais.
Depuis presque un siècle, on nous répète qu'il ne fait de mal à personne, que ce n'est rien de plus qu'un nuage de fumée qui pique les yeux. En réalité, le gaz lacrymogène n'est pas un gaz. Les composants chimiques qui produisent l'épanchement lacrymal, du latin lacryma, larme, portent les jolis noms de CS, de chlorobenzylidène malonitrile, de CN, chloroacétophénone, et de CR, dibenzoxazépine. Ce sont des agents irritants que l'on peut conditionner aussi bien sous forme de vapeur que de gel ou de liquide. Leur combinaison est conçue pour affecter simultanément les cinq sens et infliger un trauma physique et psychologique.
Bon, alors là, du coup, on est passé d'un pont à un autre.
Ouais. C'est une excellente manière de canaliser la foule, en fait. C'est presque de la stratégie militaire, hein, finalement. Et puis voilà, hein, c'est simple. Hein,
pour canaliser. Là, les gens tourneront tout l'après-midi, quoi.
Ben ouais, c'est un peu le principe, ouais.
Vous avez fait toutes les manifs?
Oui.
Depuis le 17?
Non, pas depuis le 17. Moi, je me suis réveillé, je suis un réveillé tardif. Je suis pas un adepte de la violence gratuite, absolument pas, en aucun cas. Donc pour le coup, je vais être témoin d'une époque, quoi, aussi. Je vais avoir des choses à raconter à mes enfants, à la veillée de Noël, un soir, quand les petits me diront « Eh, pépère, raconte-nous comment c'était les gilets jaunes ben, !» Je serai là, je vais voir où j'y étais. Voilà, c'est aussi pour ça que je suis là. C'est pour transmettre quelque chose, une révolte... J'espère, pour laquelle ils seront bénéficiaires, ouais. Autant, j'espère. Ça, c'est... Ouais, c'en est une, ça.
Une grenade?
Oui, ouais, ouais.
Vous faites quoi dans la vie?
Avant, j'étais soldat, maintenant, je suis charpentier. Ouais. Ah, ça y est, ça pleut. Fais attention à toi. Ouais, ouais. Mais là, Philippe,
qu'est-ce qu'il lance, là?
Lacrymo et une grenade dans l'encerclement.
On va remettre les lunettes.
Allez, on va bouger un peu.
J'ai eu un trou dans le pied. Elle m'a transpercé le pied.
Elle, c'est la GLI, la grenade lacrymogène instantanée.
Ah, ça pique.
Une grenade défensive, mais explosive, dangereuse. En plus de son effet lacrymogène, elle est très bruyante et produit un effet de souffle. Sa dangerosité est accrue à cause de la TNT qui lui permet d'exploser.
On se met au frais.
Qu'est-ce qui se passe?
Ouais, un gars qui a pas l'habitude de prendre du gaz, c'est tout. Prenez un peu de cartouche, c'est un vieux en plus, alors personne âgée. Je suis beaucoup plus sensible. Je vais faire, moi je vous laisse. Hein.
Il a trouvé une petite pièce pour le mettre à l'abri. Bah,
c'est chez lui, alors ça va.
Ça va.
Il y a un gars qui est pas bien, c'est bon, ils sont là, et ils s'en occupent, et puis c'est bon.
Ah, il y a les policiers là qui arrivent et qui repoussent tout le monde.
C'est ça, ouais. Les mains.
C'est les gens qui se mettent devant. Allez-y, pour prendre du spray décontaminant.
Viens, mets-toi là.
J'arrête de monter, moi. Je suis parisien, moi.
Viens.
Je vais parler déjà, là. Saloperie.
Ça va être froid, bite-toi.
Enculé, ouais. Généralement, il essaie de pire.
Allez, c'est pas grave.
Vous avez pris quoi? Quelque chose sur la tête?
Un coup de matraque qui m'a eu, fils de pute là-haut.
Un coup de matraque?
Oui, un coup de matraque qui m'a eu.
Sur la tête?
Je suis pas rien, j'ai même pas le droit de regarder leur nez, moi. J'ai pas le droit, moi. C'est n'importe quoi, ça. On se bat de matraque maintenant. Généralement, les. J'appelle les pompes, je m'en fous, moi.
T'as encore mal à la tête?
Vous êtes pris un peu de gaz?
Allez, oui.
Vous étiez venu manifester?
Ah non, pas du tout, j'habite ici. J'étais dans ma cour en train de bricoler tranquillement.
Bien dangereux de bricoler.
Eh oui, c'est comme ça la vie.
Attention aux têtes.
Il y a des cailloux.
Peut-être pas rester au milieu de la rue.
Des gendarmes mobiles. Mais bon, ils piquent un leur bordel.
Les dégâts que les gaz lacrymogènes occasionnent sont nombreux.
Un gaz, là?
Ouais.
Larmes, brûlures de la peau, troubles de la vue.
Vous n'avez pas de lunettes, vous? Pas de masque?
Comment?
Vous n'avez pas de lunettes,
non.
Pas de masque?
Non.
Compression des poumons, toux, sensation d'asphyxie, nausée, vomissement.
Vous en pensez quoi, vous, de tout ça?
La vie est dure.
Vous pensez qu'ils ont raison, les gilets jaunes, de descendre dans la rue?
Tout à fait, hein, le... Quand on voit, plus on travaille, moins on gagne d'argent.
Faites quoi, vous, comme travail?
Eh ben, mon vrai métier, je suis électricien en bâtiment. Donc maintenant, je suis ouvrier communal. Donc ça va encore, j'ai l'assurance de l'emploi, mais comment? Ce que je vois, c'est que je gagnais mieux ma vie en démarrant, j'ai 52 ans. En démarrant ma vie à 18 ans que maintenant à 52 ans.
Du coup, vous êtes pris un petit peu de gaz, mais vous soutenez quand même le mouvement.
Bah, tout à fait, n'importe comment ça touche. Vous savez, quand vous gagnez 1 300 € net par mois, bon, je pense pas que je sois dans la classe des bourges, hein, c'est tout. Hein.
Oh, Camille !
Bonne fin de journée.
Vous aussi.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Il y a des années que nous disons qu'il y a des problèmes à l'égard du respect des droits fondamentaux.
Jacques Toubon.
Dans la manière dont se fait le maintien de l'ordre dans notre pays.
Ah, il y a un hélico là qui est arrivé.
L'Allemagne a, il y a 30 ans, modifié ses méthodes de maintien de l'ordre.
Il y a pas mal de gaz là-bas.
Et Dieu sait si l'Allemagne a connu des manifestations. Dieu sait si l'Allemagne a connu du terrorisme. C'est ce que fait l'Angleterre aussi depuis longtemps.
Qu'est-ce qui se passe là? Ils ont bloqué ici?
Ah, ils ont une usine, là, ils sont en train de nous fermer complètement. Attends, je vais passer l'info aux autres médics là.
Ouais, là on peut plus se barrer, là on peut plus se barrer, là on peut plus, et là on peut plus. Et apparemment ils arrivent par le côté là, donc il ne reste plus que la rue derrière nous pour nous barrer si ça merde.
Ok, ok.
Là on prend la douche, et le problème c'est qu'avec l'hélico, on peut anticiper tout.
Par contre, faut faire gaffe parce que l'hélicoptère, si ça fait comme Épinal, ils vont gazer.
Hein?
L'hélicoptère a gazé Épinal. Donc,
Et les gaz, ils sont comment là par rapport aux autres fois?
Violent. Violent. Très violent parce que déjà ils sont extrêmement épais donc on voit plus rien dans le nuage. Et on avance, on va fermer, on avance.
Est-ce qu'il y a... Est-ce que t'as pas entendu un truc bizarre?
Si.
Qu'est-ce que c'est?
C'est le gaz.
Ouais, mais t'as vu, il a tout déclenché. Putain, ils ont mis le paquet, hein.
Non, non, mais là, ils ont mis la douche.
Là, mais quand ça a gazé, on est arrivé, moi, j'ai cru qu'il y avait un feu, pour te dire, que c'était les manifestants qui avaient allumé une barricade.
Alors, ça s'accumule. Puis, s'il y a une étincelle, ça explose. C'est normal. Et qui dit explosion, dit détonation.
On déplace là-bas, les gars.
Tout le bruit que t'as entendu tout à l'heure, voilà. La 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 la.
Oula.
La 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 la.
Ça canarde sévère. Ils ont tiré sur le Suzy. Qu'est-ce qu'elle s'est pris?
Un tir de.
Merde.
Zizi.
Dis donc. Tu sens pas le brûlé?
Bah ouais. C'est normal, je t'ai expliqué. Il y a eu une explosion.
Oui.
Et l'agitation moléculaire due à cette explosion...
La quoi?
L'agitation moléculaire.
Ah ouais.
Provoque une élévation thermique suffisante pour enflammer les matières environnantes.
Ouais, ouais.
C'est alors ce qu'on appelle la combustion. C'est normal. Tu comprends?
Ouais, ouais.
Comme un bruit qui court.
Il y a tous les CRS qui arrivent là, qui sortent les matraques. Vous êtes vous faites partie d'une équipe aussi?
De la Légion Jaune, moi. La Légion Jaune de Nancy.
C'est quoi la Légion Jaune?
On est là pour protéger un peu les manifestants. Et on essaie aussi de protéger les street medics quand ils sont en train d'aider les gens, parce que les CRS et la gendarmerie mobile, on n'a rien à foutre. Que ça soit des street medics ou pas, ils chargent. Donc nous, on est là pour faire un cordon autour d'eux quand ils sont après les gens, pour essayer de les protéger, faire ce qu'on peut, quoi.
Je suis désolée, je
sais pas. Mais y'a pas de soucis, hein. T'excuses pas, hein.
Mais tu t'es pris quoi, un truc de grenade lacrymo, là?
Bah ouais.
Ouais,
derrière dans la tête. Derrière, ça fait... J'ai vu tout blanc. J'ai respiré du gaz le temps que je vais... Enfin, mon masque à gaz, le problème, c'est que... J'ai pris une bouffée et...
De gaz.
Voilà, bah même, en fait, c'est le coup que j'ai pris à la tête. Ça m'a fait un chaos. C'était sympa.
Les lacrymos ont aussi été mis en cause dans des problèmes musculaires et respiratoires à long terme.
Qu'est-ce qui se passe là?
Il y a un mec qui est inconscient à la gare. Voilà, on va y aller.
Alors que l'usage de toutes les armes chimiques est interdit par les traités internationaux dans le cadre des guerres, les forces de l'ordre restent au niveau national plus que jamais autorisé à déployer du gaz toxique sur les individus ou les cortèges de leur choix. Un policier peut ainsi arborer un atomiseur de gaz lacrymogène à sa ceinture, tandis qu'un militaire n'en a pas le droit. On s'arrête.
Allez, encore.
On réfléchit. Ça y est, les pompiers arrivent là pour prendre en charge la dame.
Ça y est, ils la prennent en charge, elle a bien récupéré là.
Qu'est-ce qui lui est arrivé à cette dame, Yann ?
Des crises respiratoires avec les gaz, hein. Le taux d'oxygène dans le sang qui descend sous la norme physiologique. Donc du coup, on l'a extrait du milieu gazeux, on l'a ramené au calme parce que la régulation du SAMU nous a demandé d'extraire la personne pour la mettre dans la gare pour que les pompiers puissent intervenir en sécurité pour la récupérer. Donc c'est quelque chose de fréquent, ça. Donc ils ont fait jonction avec nous et ils ont pris en charge la patiente. Et puis bon, là, à l'arrivée des pompiers, elle montrait déjà des signes de réveil. Enfin voilà, elle commençait à bien récupérer, sa saturation était remontée à 100%, donc c'était tip top. Voilà, juste la fréquence cardiaque encore un peu élevée, mais ça c'est bon, bah le stress, la peur, etc. L'agression par le gaz.
C'est les gaz lacrymaux qui provoquent des tresses respiratoires comme
ouais,
ça.
Parce que en fait, comme ça fait, ça crée, c'est des agents irritants. Donc ça, quand on l'inhale, ça va irriter les bronches. Alors il peut y avoir des réactions, alors soit simples, c'est-à-dire que si vous êtes en pleine forme, que vous n'avez pas de problème de santé, on peut voilà, une petite toux irritante.
Et qu'est-ce qu'il y a dans ces gaz lacrymaux alors?
Ah, il y a une réelle opacité là-dessus, donc on n'en sait rien. On sait qu'il y a des personnes qui sont en mesure de les analyser, pardon. Donc bah, on espère que des palais ont pu être récupérés pour analyse. Ça peut être intéressant, pas tant sur les prises en charge immédiates, mais pour les conséquences que ça pourrait avoir sur le long terme. Ça peut, pourquoi pas, avoir des vraies conséquences sur la santé, on ne sait pas. Il n'y a pas eu de vraies études de fait. Je pense qu'il y a une réelle opacité qui est peut-être volontaire aussi sur la composition des gaz pour éviter leur interdiction complète par l'ONU, etc. Puisque effectivement, s'il y a des agents qui sont très irritants et qui sont classés dans ce qu'on appelle les armes de guerre, ça change la donne au niveau du point de vue international, quoi. Donc on ne sait pas. On ne sait pas et c'est opaque pour une bonne raison, je pense.
Ce que tu me disais tout à l'heure aussi, Yann, on a été coupé parce qu'on a été chargé. Ouais. C'est que les gaz, là, ils sont beaucoup plus épais qu'avant. Ils sont différents.
Jusqu'à présent, c'était des gaz qui étaient moins denses, moins concentrés. Donc, mais effectivement, ouais, c'est de plus en plus corsé ce à quoi on est exposé en manifestation. Il y a la fumée, le gaz, les LBD, les IF4. Peut-être que l'ONU fera le nécessaire, j'espère. Il n'y a rien qui justifie en tout cas une telle violence avec autant de gaz comme ça a été le cas aujourd'hui. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont réussi à aussi facilement nous repousser du centre-ville et nous ramener jusqu'à la gare où le cortège, là, ben, c'est terminé, c'est complètement dispersé.
Comme de surcroît, on peut désormais gazer en toute légalité des manifestants pacifiques ou passifs, les autorités n'ont plus à s'inquiéter des luttes collectives non violentes. Le lacrymo s'est imposé comme une arme multifonction capable non seulement de stopper une manifestation, mais aussi de saper toute forme de désobéissance civile.
Là, ça y est, c'est fini.
C'est la fin, ouais, c'est fini. Maintenant, voilà, le cortège est parti. Donc nous, on va replier le dispositif et puis on va rentrer aussi pour nous. La mission est terminée aujourd'hui et elle aura été concluante.
Concluante ?
Bah concluante parce que on a pu aider. On a fait ce pourquoi on était là.
Fermer, démonter, rouler. Ça, c'est les pompiers qui disent ça en général. À la fin d'une manœuvre, quand on roule les tuyaux, on dit fermer, démonter, rouler. Remballer.
Vous pouvez retrouver sur le site de l'émission le lien vers l'article du Monde Diplomatique sur les gaz lacrymogènes. Vous pouvez aussi y retrouver l'interview de Sébastien Rocher, le sociologue qui nous expliquait en janvier dernier comment la doctrine même du maintien de l'ordre était périmée en France, avec une banalisation de l'usage de la force, alors que les Allemands ou Britanniques font face aux mêmes situations autrement. Bref, il y aurait un problème avec la méthode française.
Et voilà que la France se retrouve quelque part entre Haïti et le Zimbabwe. Géographiquement, c'est un peu tiré par les cheveux, mais au niveau de la violence, de la répression, des manifestations, c'est l'avis de l'ONU et de sa haut-commissaire aux droits de l'homme, Michel Bachelet, qui le 6 mars a réclamé à la France une enquête approfondie sur les violences policières qui se sont produites pendant les manifestations des Gilets jaunes. Ça branle dans le manche. De son côté, le Parlement européen a adopté le 14 février, et à une très large majorité, une résolution sur le droit de manifester pacifiquement et l'usage proportionné de la force. Et c'est bien la répression du mouvement des Gilets jaunes qui était au centre des débats. Alors on part retrouver l'avocat Raphaël Kempf à Paris, quelque part entre Haïti et le Zimbabwe. Raphaël Kempf, vous êtes avocat et vous défendez des Gilets jaunes qui passent souvent en comparution immédiate. Le samedi, manifestation et après, le coup près tombe. Hein. C'est comme ça que ça se passe.
Oui, voilà, depuis 3 mois, on est habitué à ce que tous les lundis et tous les mardis, il y ait des dossiers spéciaux, voire des chambres spéciales à Paris, chargées de juger les manifestants arrêtés pendant le week-end.
Le jugement est tombé pour Benjamin Pérez. Il écope finalement de 6 mois de prison avec sursis, d'une interdiction de centre-ville les week-ends pendant 6 mois et de 5 années de mise à l'épreuve.
Voilà. Ça veut dire, en gros, je peux prendre du ferme à tout moment de ma vie si je fais quelque chose, voilà, même si c'est même pas ma faute, quoi. Donc c'est ce qui me fait peur.
Je défends des gilets jaunes qui me le demandent. Alors à la fois des gilets jaunes d'une part qui sont placés en garde à vue, arrêtés avant, pendant ou après la manifestation, mais également des gilets jaunes qui viennent nous voir quelques jours après les manifestations parce que ils ont été victimes de graves violences policières. Et ce que nous constatons depuis le début de ce mouvement, c'est effectivement, alors sur le plan des violences policières, un usage disproportionné de la force qui nous apparaît donc pour cette raison même illégal. Et sur le plan judiciaire, nous observons une mise en branle de manière industrielle de l'appareil policier-judiciaire dans le but de placer en garde à vue des manifestants pour les empêcher de manifester. C'est ce que nous observons depuis le début, avec une réponse ensuite des tribunaux et des procureurs de la République, qui est une réponse qui se veut ferme et qui se veut à l'unisson d'injonctions gouvernementales s'agissant de ce qui va être mis en œuvre par les procureurs de la République et notamment à Paris.
Alors le Canard Enchaîné avait dévoilé une directive, hein, c'est ça ?
Le Canard Enchaîné, 30 janvier 2019. Les incroyables consignes du parquet sur les gilets jaunes. Que faire des gilets jaunes interpellés ? Un courriel que le Canard a consulté, adressé par leur hiérarchie aux magistrats du parquet de Paris, donne des consignes. Une vision édifiante de la défense des libertés.
Directive très étonnante. Il s'agissait apparemment d'une note interne, d'une note technique, soi-disant, de Rémy Heitz, le procureur de la République de Paris, qui a été récemment nommé, hein, et qu'on ne peut pas considérer comme étant un magistrat indépendant, donc qui gère un parquet important avec plusieurs dizaines de magistrats, a donné des consignes à ses subordonnés.
Même si les policiers pincent quelqu'un par erreur, il faut, précise froidement le courriel, de préférence maintenir l'inscription au fichier TAJ, pour traitement des antécédents judiciaires, même lorsque les faits ne sont pas constitués.
Alors lui, il s'en défend, il dit non, mais ce ne sont que des conseils techniques. Non, non, ce sont des ordres et des consignes donnés à ses subordonnés, par lesquels il leur demande...
Mieux encore, les magistrats sont priés, toujours cette prudence...
...de maintenir en garde à vue jusqu'au samedi soir ou au dimanche matin des gilets jaunes qui seraient interpellés avant ou pendant les manifestations.
De ne lever les gardes à vue que le samedi soir ou le dimanche matin, afin d'éviter que les intéressés grossissent à nouveau les rangs des fauteurs de troubles.
Et continue à les priver de liberté dans le but de les empêcher, je cite, de rejoindre les fauteurs de troubles. Donc déjà, c'est un peu étonnant de voir qu'un magistrat assimile des manifestants par principe à des fauteurs de troubles. Donc premier motif d'étonnement. Deuxième motif d'étonnement, c'est le fait que dans cette note soi-disant technique, qui en fait est extrêmement politique, le procureur de la République dit à ses subordonnés de continuer de maintenir en garde à vue, de maintenir les privations de liberté, alors même qu'il n'y a rien dans les dossiers contre ces personnes. C'est-à-dire qu'en gros, on a un magistrat, un des plus hauts magistrats du pays, sur le plan, au niveau du parquet, qui vient nous dire, alors même qu'on n'a rien contre des personnes, alors même qu'on ne peut pas caractériser à leur encontre des infractions au sens du code pénal, il faut continuer à les priver de liberté pour qu'ils n'aillent pas manifester. Donc oui, c'est quelque chose qui nous apparaît extrêmement choquant et totalement inédit.
Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, les violences urbaines et les face-à-face avec les forces de l'ordre se soldent par des condamnations allant du simple rappel à la loi de la prison ferme. Jusqu'à 2 années de prison pour la plus lourde peine prononcée contre un gilet jaune dans la région.
Raphaël Kemp, vous êtes allé à Genève il y a quelques jours, et c'était pas pour faire de l'optimisation fiscale hein, pour les gilets jaunes, mais c'était justement pour rencontrer le rapporteur spécial des Nations Unies à Genève.
Oui, en fait, depuis le début du mouvement des gilets jaunes, avec des confrères de toute la France, on a fait à peu près le même constat que je viens de décrire. On s'est dit, il faut faire quelque chose. Alors, au début, effectivement, on avait déposé un certain nombre de plaintes auprès de l'IGPN, enfin la police des polices, sur les violences policières, auprès de différents procureurs de la République dans toute la France. On contestait également, par ailleurs, comme je vous l'ai dit, les procédures judiciaires. On a été particulièrement choqués de voir un certain nombre de sanctions extrêmement lourdes, notamment avec des interdictions de se rendre à Paris, qui étaient prononcées à titre de peine complémentaire par le tribunal correctionnel de Paris, empêchant de fait à un grand nombre de manifestants qui, pour beaucoup, dans la sociologie des Gilets jaunes, ce sont des gens qui ne sont pas de Paris, qui montent à Paris pour manifester, et les décisions prises par les tribunaux de les interdire de se rendre à Paris pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 2 ans, étaient des décisions qui avaient pour effet de les priver de leur liberté de manifester. Donc une fois qu'on voit ça, on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et à un moment donné, on s'est dit qu'il fallait avoir une espèce de tiers, d'arbitre indépendant, qui soit indépendant de la conjoncture politique française et qui puisse regarder ça d'un peu plus haut avec un peu plus d'objectivité. On s'est dit, voilà, pourquoi pas l'ONU? Et effectivement, au sein de l'ONU, il y a un système de protection des droits de l'homme qui examine un certain nombre de cas de violation des droits de l'homme dans le monde entier et sur différents aspects. Et donc, il y a un rapporteur spécial qui est indépendant de l'ONU, travaille à Genève, et qui, lui, est spécialiste de la liberté de manifester. C'est-à-dire qu'il va examiner dans différents pays à quel moment est-ce que les pays, les États respectent ou pas le droit de manifestation des citoyens. Et donc, on s'est dit, on va réunir un certain nombre de cas, une trentaine au total de toute la France, qui montrent comment la France, depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, a violé ou restreint la liberté de manifester de certains de nos concitoyens. Il y a des cas de violence policière, mais il y a aussi tout un nombre de cas d'interpellation abusive, par exemple des street medics arrêtés avec tout leur matériel médical avant les manifestations, alors qu'ils s'y rendent et que, évidemment, un street medic, c'est pas quelqu'un qui risque de commettre des violences ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, je pense qu'il est à peu près impossible de déterminer avant que quelqu'un commette des violences son intention d'en commettre. Sauf s'il l'a dit expressément, et laissez-moi vous dire que c'est rarissime. Donc voilà, vu que la France essaye de voir ce qu'il y a dans la tête des citoyens, voir ce qu'il y a dans la tête des manifestants, et d'essayer de deviner, par un exercice un peu divinatoire, ce que ces personnes pourraient avoir l'intention de commettre des délits, alors qu'elles n'en ont pas encore commis, on s'est dit, à un moment donné, là, on est tellement dans la politique et le droit fiction qu'il fallait en référer à une instance supérieure. Donc nous présentons, nous adressons au tout début du mois de février tous ces dossiers à l'ONU. Et quelques jours après, nous sommes reçus à Genève par le rapporteur spécial sur le droit de manifester et par un certain nombre de personnes du staff des droits de l'homme à l'ONU à Genève. Et donc on leur a tout raconté. C'est-à-dire à la fois les violences, à la fois les gardes à vue, à la fois aussi le projet de loi dit anti-casseurs, qui risque de restreindre encore plus le droit de manifester. Et c'est vrai que 2 jours après notre séjour à Genève, il y a eu un communiqué de presse de plusieurs rapporteurs spéciaux indépendants de l'ONU qui avaient alerté spécifiquement sur la situation en France en disant qu'ils étaient un peu inquiets, en termes diplomatiques, c'est pas rien, de ce que la France ne respecte pas le droit de manifester de ses citoyens. Voilà, donc ça, c'était il y a à peu près 15 jours, 3 semaines. Et cette semaine, Michel Bachelet, donc, qui est haut-commissaire en droits de l'homme de l'ONU, a présenté, disons, une espèce de rapport qui faisait état de ses préoccupations en matière de respect des droits de l'homme dans le monde entier. Et elle a abordé la situation d'un certain nombre de pays.
In France, des gilets jaunes.
Dont la France.
In France.
En France, les gilets jaunes protestent contre ce qu'ils considèrent comme une exclusion des droits économiques et de la participation aux affaires publiques. Nous encourageons le gouvernement à poursuivre le dialogue, y compris le suivi des discussions nationales actuellement en cours, et demandons urgemment une enquête approfondie sur tous les cas rapportés d'usage excessif de la force.
La France n'est pas le seul pays prospère à être mise à l'index par Michel Bachelet. Non, 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 il faut peut-être lire les choses jusqu'au bout si on est un peu sérieux, et on verra que Michel Bachelet a par exemple dénoncé la manière dont les États-Unis traitent les migrants. Et donc dans ce rapport, dans cette liste, elle prononce quelques mots sur la France, quelques mots qui sont à mon avis très pertinents. Elle reconnaît qu'il y a un mouvement social qui porte en lui la question de l'inégalité, donc c'est déjà un constat qui est important. Et elle demande une enquête sur l'usage excessif de la force. Donc c'est la traduction en français de l'expression anglaise. En français, on dirait plutôt l'usage disproportionné de la force, qui est une espèce d'euphémisme pour parler des violences policières.
Bonjour, monsieur Gastanel.
Pourquoi vous autorisez les tirs de flashball? Enfin, les policiers à avoir des flashballs?
D'abord, c'est une arme de protection. Et c'est dans certaines circonstances exceptionnelles, ce qu'on appelle des émeutes, où les policiers, vous avez déjà vu ces images, hein, on leur jette des choses dessus, des barres de fer, des cocktails Molotov, toute une série de choses. À un moment de là, ils peuvent répliquer pour dire aux gens, d'ailleurs c'est annoncé à haute voix, on leur dit « poussez-vous », la formule c'est pas celle-ci, mais je vous la fais en version simple, « ne restez pas là, c'est dangereux », et s'ils ne bougent pas, pour se protéger, ils ont ces armes qu'on appelle des armes intermédiaires.
Faites attention les oreilles. Point visé, point touché, hein, en plein dans le thorax. Hein.
Ah ouais, thorax, ouais.
Donc, demander une enquête sur l'usage disproportionné de la force, c'est déjà première chose constatée. Il y a des éléments qui me laissent penser qu'il y a des violences policières. C'est-à-dire que face à ça, l'ONU reconnaît un état de fait, un constat. Donc ça, c'est déjà un point fondamental. Demander à ce qu'il y ait une enquête, c'est aussi constater que les enquêtes qui sont menées ne le sont peut-être pas avec toute la diligence, toute la célérité, tout le sérieux qu'on peut en attendre. Je pense que derrière cette déclaration de Michel Bachelet, il y a aussi implicitement cette espèce de critique. Et je pense que c'est fondamental parce que le gouvernement a répondu en disant « Non mais attendez, vous nous associez au Venezuela et au Zimbabwe, ça n'a strictement aucun sens. » Non, non, elle fait son job. Son job, c'est de constater où est-ce qu'il y a des violations des droits humains dans le monde. Et elle aborde différentes situations et elle en parle. Alors, je vais peut-être au-delà de ce qu'elle pense, mais en tout cas, moi je m'étonne, à titre personnel et mes confrères également, de ce que les gilets jaunes puissent être arrêtés, placés en garde à vue, déférés, jugés en comparution immédiate, parfois envoyés en prison, tout ça de manière extrêmement rapide, c'est-à-dire parfois en moins de 48 heures. Quand on accuse un gilet jaune d'avoir jeté un caillou sur un policier, il suffit d'un policier non identifié pour écrire sur une fiche qui ressemble à un QCM que celui-ci a commis des violences. Quand je dis QCM, c'est pas une blague, hein, c'est-à-dire que les fiches d'interpellation sont des documents dans lesquels il y a des cases qu'on peut cocher en notant l'infraction qui est soi-disant commise. Donc il suffit d'un policier qui remplisse cette fiche pour qu'une personne aille en prison, en moins de 48 heures. S'agissant d'un policier qui fait un usage, illégal de son lanceur de balles de défense et une personne qui perd son œil, ça prend bizarrement beaucoup plus de temps. Alors moi je demande pas que les choses soient claires, hein. Je défends pas la prison, même pour mes adversaires politiques. Mais on peut s'étonner de ce traitement à deux vitesses qui est fait en ce qui concerne d'une part les violences policières et d'autre part les violences imputables ou imputées aux manifestants.
On est combien ici dans le rond-point en temps normal?
Une trentaine.
Une bonne trentaine. Le jour où on a reconstruit de la baraque là, jusqu'à la baraque là, c'était jaune.
Ouais.
Que des gilets jaunes, du genre en jaune.
C'est beau, hein?
Ah ouais, ouais. On avait la rage. On avait la rage.
Un feu pour faire voler toutes les douleurs du passé, des braises pour les ferrons, des chevaux, des grands-parents.
Un feu pour les paysans sur l'autoroute de la banqueroute. Un feu même sous la pluie, ça va reprendre, sans aucun doute. Du souffle sur les brindilles pour que ça brûle les escadrilles. Un feu sous les étoiles pour voir nos yeux qui brillent. Des flammes sur les cartons remplis de lettres pas ouvertes. Un feu au président qui s'arme jusqu'aux dents. Un souffle sur les bougies d'un résistant qui est parti. Un feu qui rassemble tous les vieux, les grisonnants. Des cendres pour les ados qui se sont tenus chauds. Un feu pour les amants pour qu'ils s'aiment encore longtemps. Un feu, un grand feu. Mitraillage, pilonnage, brûlage, aigreur, ampoule, cloque, tison, inflammation, irritation, insolation, ulcération, rougeur et feu follet. Ardent, brûlant, embrasé, embrassé, passionné, exalté, bouillonnant, flamboyant, incandescent, lumineux, amoureux. Un feu, un grand feu, celui du cœur et du vivant. Qui te dit viens, qui lui vit sans peine, réchauffe tes mains d'où que tu viennes.
C'était Comme un bruit qui court. Merci à toutes et à tous. Vous pouvez vous abonner au podcast et retrouver toutes les informations sur le site franceinter.fr. Et nous, on se retrouve samedi prochain à 16h.